ils ont regagné leur chambre silencieuse et la chaleur. Depuis la fenêtre, Émile voit encore les deux anges blancs dans la neige. Ce sont les traces qu'ils ont faites tout à l'heure quand ils se sont laissés tomber sur le sol. Joanne est assise sur le lit et ses tremblements ont repris. Elle grelotte, enroulée dans son châle noir. Émile quitte le rebord de la fenêtre et vient s'agenouiller devant elle. « Ça va ?» Sa petite tête est agitée de soubresauts. Ses dents claquent. Il prend ses mains, l'oblige à relever la tête. « Joanne !» Il sent son souffle chaud quand elle murmure entre deux claquements de dents.
« J'ai froid. J'ai tellement froid. »
Elle n'a pas quitté ses vêtements d'extérieur. Elle a toujours son écharpe autour du cou et son châle qui l'enserre. Ses lèvres sont glacées. Il ne peut pas quitter des yeux ses lèvres devenues violettes. Il surprend son regard qui surprend le sien. A-t-elle deviné qu'il voulait l'embrasser ?
Ça fait tellement longtemps.
Elle a murmuré si bas qu'il n'est pas sûr d'avoir compris.
Quoi ?
Elle le dévisage de son petit visage agité de tremblement.
Ça fait une éternité qu'on ne m'a pas touché.
Il sent son cœur manquer un battement. Il essaie de masquer l'affolement dans sa poitrine. Elle a encore cette satanée fièvre. Elle a sans doute une hallucination. Il passe une main doucement sur son front et murmure.
Ça va aller, Joanne. T'as un peu de fièvre. Je vais remettre du bois dans la cheminée, d'accord ?
Ses lèvres se cognent l'une contre l'autre. Bon sang, pourquoi a-t-elle si froid ? La voix faible de Joanne s'élève à nouveau, parcourue de tremblements.
Ça fait presque 2 ans.
Il serre ses mains plus fort dans les siennes et les frictionne. Sa petite voix grelottante poursuit dans un souffle à peine audible.
J'ai froid. J'ai si froid.
Je sais, Joanne.
Une larme coule sur sa joue et il est presque surpris qu'elle ne se transforme pas immédiatement en glace.
Je sais même plus si je me souviens.
Il passe une main sur son front brûlant, essuie la larme.
De quoi, Joanne ?
Comment c'est ?
Comment c'est ?
De faire l'amour.
Il ne sait plus quoi dire. Il continue de frictionner ses mains. Il aimerait l'envelopper tout entière dans ses bras, mais il ne sait pas s'il est autorisé à le faire.
Bien sûr que si, Joanne, ça s'oublie pas.
Une nouvelle larme coule sur sa joue. Il l'essuie et pose son front contre celui brûlant de Joanne pour l'apaiser.
Je suis sûr que tu faisais ça extraordinairement bien, murmure-t-il. Et je suis certain que t'as pas oublié.
Les dents claquent. Le souffle chaud de Joanne se mélange avec le sien. Une de ses larmes tombe sur le poignet d'Émile.
« Émile, »
chuchote-t-elle.
« Ouais ?»«
Je veux que tu le fasses. »
Il n'est pas sûr de comprendre. Quelque chose s'affole dans sa poitrine. Il ne veut pas bouger. Il préfère rester comme ça, son front contre celui de Joanne. Il ne veut pas qu'il se regarde. Pas tout de suite.
« Que je le fasse, »
répète-t-il. Le souffle de Joanne vient mourir sur ses lèvres.
Me faire l'amour.
Il reste immobile quelques secondes, son front toujours contre le sien.
J'ai...
Il a du mal à trouver ses mots. Joanne ne bronche pas, elle ne bouge pas. Elle attend.
Je...
Il revoit le corps souple et solide de tout à l'heure, le tatouage de l'arbre de vie, la peau d'une jolie lueur blanchâtre, le regard qu'elle lui a lancé. Elle savait qu'il la détaillait. Elle a senti ses yeux sur sa peau. Peut-être a-t-elle compris qu'il trouvait son corps beau et émouvant. Peut-être a-t-elle compris qu'elle était désirable. Il relève la tête vers elle. Ses joues barbouillées de larmes, les tremblements qui agitent ses lèvres. S'il le pouvait, il lui dirait encore « J'ai fini par t'aimer ». Mais il ne le peut pas. Tout est bloqué dans sa gorge. Tout, sauf ce son guttural qui en jaillit.
D'accord.
Il l'allonge tout doucement sur le lit, il lui retire son châle qu'il dépose à côté d'eux. Il se couche tout contre elle en essayant d'envelopper son corps pour que cessent les tremblements. La tête de Johan bascule lentement vers la sienne. Ses lèvres sont brûlantes quand elles viennent se poser sur les siennes. Leurs souffles sont fébriles, fiévreux. Il tremble lui aussi à son tour. Il tremble d'impatience, d'émotion, d'urgence de vivre. Elle murmure, ses lèvres collées aux siennes, « J'ai si froid !» Et il la grippe encore plus fort, il l'enveloppe davantage. Il essuie ses larmes en l'embrassant. Il essaie de contenir ses tremblements entre ses mains qu'il aimerait plus larges.
« Tu m'as regardé tout à l'heure ?»
chuchote-t-elle entre deux baisers.
« Oui. »
Ils continuent de s'embrasser comme s'ils voulaient se respirer l'un et l'autre. Émile songe que c'est dingue que ça ne se soit pas produit avant, qu'ils aient attendu aussi longtemps.
« Qu'est-ce que tu t'es dit ?» murmure-t-elle.
« Quoi ?
En me voyant ?»
Il roule au-dessus d'elle. Il n'a pas peur de l'écraser, plus maintenant.
« Je me suis dit que tu avais l'air inébranlable. »
De nouvelles larmes coulent des yeux de Johan, mais il ne les laisse pas mourir sur ses joues. Il les essuie.
« Viens !»
murmure Johan.
« Quoi ? Viens en moi !»«
Ouais, j'arrive, Johan. »
« Non, tout de suite !»
Son regard se fait grave.
« Tout de suite !»
répète-t-elle avec dureté.
« J'ai tellement froid. »
Il se passe tout ça quand on mange ?
Elle hoche la tête. Il croit deviner un sourire aussi sur son visage.
« Oui, il se passe tout ça quand on mange. Mais aussi quand on respire, quand on marche, quand on fait l'amour. Il suffit d'y prendre garde. »«
Montre-moi, d'accord ? »
a-t-il murmuré tout à l'heure quand il était en elle. Elle ne tremblait plus. Ses lèvres étaient redevenues roses et légèrement gonflées. Ses joues étaient rouges. Elle a demandé
« Quoi ? »
« Montre-moi comment faire l'amour vraiment. Comme pour le gâteau. Comme pour le gâteau, Eus. »
Alors elle a posé ses mains sur sa poitrine. Il était au-dessus d'elle. Et elle lui a dit
« Arrête-toi. »
Il s'est immobilisé au-dessus d'elle, de son visage rose, de ses épaules fines. Et elle a dit «
Sens ce qui se passe. Sens ce qui se passe quand on est relié comme ça. »
Elle a fermé les yeux et il l'a imité. Il a songé qu'il n'avait jamais fait ça, une pause au milieu de l'amour. Il n'avait jamais pris le temps de prendre conscience de son corps, du corps de l'autre, de l'acte intime qu'il partageait. Il n'avait jamais pris le temps de ressentir la symbiose entre les corps, la circulation des énergies, la complémentarité des sexes, le langage quasi universel qu'ils se jouaient. Ils ont recommencé à faire l'amour sans même en prendre conscience, sans même le vouloir, comme si leur corps avait repris le contrôle, comme si quelque chose de plus fort, de plus grand les animait maintenant. Ils se sont laissés embarquer dans cette danse charnelle en s'arrêtant régulièrement pour écouter leur souffle qui se répondait et sentir leurs veines qui crépitaient. Ils se sont arrêtés, et c'est dans l'immobilisme le plus parfait qu'Émile a vu Johan capituler, rendre les armes, et se laisser aller à une extase qui lui a semblé toute puissante, qui l'a presque effrayé. Il a tenté de garder les yeux ouverts pour mémoriser chaque détail de son visage, de sa bouche qui s'entr'ouvrait, de ses paupières qui battaient comme deux ailes de papillon. Il a tenté de rester rivé à son visage, mais l'extase l'a emporté lui aussi, comme une immense vague, comme une force supérieure. Il s'est effondré au-dessus d'elle. Il a su qu'elle l'avait fait, qu'elle lui avait montré. Il a su qu'elle l'avait guidé comme pour le gâteau, comme pour tout le reste. Il est resté de longues secondes ainsi, allongé sur elle, incapable de parler. C'est elle qui a murmuré en premier, dans un souffle à peine perceptible.
« Je n'ai plus froid. »
Elle s'est endormie maintenant, et Émile n'a pas sommeil. Assis contre les oreillers, il regarde la neige tomber au dehors et le tableau de Johan posé sur le rebord de la fenêtre. Il regarde l'ombre de Poc roulée en boule sur la moquette. Il essaie de bouger le moins possible en attrapant le petit carnet noir posé sur sa table de nuit. La pleine lune éclaire suffisamment la pièce pour qu'il puisse griffonner quelques lignes. Il n'a aucune idée de la date du jour ni de l'heure, mais il s'en moque. Une nuit de novembre, dans les montagnes, sous la neige, pleine lune. Il faut marcher dans l'obscurité pour apercevoir la lumière. Denis Lapointe. Pour Joanne, endormie tout contre moi. Celle qui m'aura finalement montré la lumière.
Où tu vas ?
Il ouvre juste les yeux. La lumière du jour l'éblouit et il doit cligner plusieurs fois des paupières pour stabiliser l'image. Mais il n'a pas rêvé. Joanne est debout, habillée de pied en cap, une écharpe autour du cou.
« Ah !» fait-elle se retournant vers lui. « J'ai pensé, je veux aller aider sur le chantier ce matin. »
Il a du mal à réaliser ce qu'il s'est passé entre eux cette nuit. Il a encore cette drôle de chaleur au creux de la poitrine.
« Tu es sûr ?»
Elle hoche la tête. Elle a son regard déterminé et son visage impassible.
« Je n'ai plus de fièvre. »«
Fais voir. »
Elle hausse les yeux au ciel en approchant du lit. Il pose une main sur son front.
« Bon, d'accord. »
Il doit s'avouer vaincu. Elle n'a plus de fièvre. Elle a meilleure mine aussi. Il est soulagé de la voir comme ça.
« Tu prépares le petit déjeuner ? Je prends une douche et j'arrive. »«
D'accord. »
C'est étrange de voir Joanne dans la cuisine, au milieu d'Albin et de Vance. Il la regarde intrigué. Personne ne dit un mot.
« Je vois que vous avez rencontré Joanne »,
fait Émile en entrant dans leur petite cuisine en se séchant les cheveux dans une serviette. Les deux gars acquiescent. Ils ont l'air perturbés d'avoir une fille au milieu d'eux.
« Elle vient travailler avec nous aujourd'hui. »
Elle est silencieuse, enveloppée dans son écharpe. Elle attend devant les bols qu'elle a préparés. Émile prend place à côté d'elle. Elle lui désigne le café chaud, le pain frais et le beurre déposés tous les matins par Hippolyte à l'aube.
« Tu as déjà fait des petits travaux ?»
lui demande Émile en croquant dans son pain. Elle a un sourire énigmatique, puis elle finit par acquiescer.
« Oui. »
Elle a des douleurs aux genoux à force de passer ses journées à carreler cette satanée véranda. Léon aussi paraît éreinté. L'été s'est installé à Saint-Suliac et le soleil tape lourdement contre les vitres de la véranda. Ils sont en sueur.
Une infusion glacée ?
Demande Joseph en passant la tête par la baie vitrée entrouverte. Il est dehors au milieu de ses plants de tomates.
Papa !
Soupire Joanne en se relevant avec une grimace.
Tu ne devrais pas être dehors avec une chaleur pareille.
J'ai déjà pas le droit de vous aider. « Je devrais rester seul, enfermé dans le noir ?»
Il a l'air irrité. Il supporte très mal cette mise au repos imposée par le médecin. Mais Joanne ne faiblit pas. Le mois dernier, il a refait un malaise cardiaque.
« Va te mettre à l'ombre quelques minutes, papa. C'est moi qui vais t'apporter une infusion glacée. »
Joseph bougonne un peu, mais finit par se lever et épousseter ses mains pleines de terre. Son second malaise cardiaque était bien plus sérieux que le premier. Il s'est écroulé au milieu du potager. C'est Joanne qui l'a retrouvé. Les médecins lui ont fait faire des examens plus poussés et le diagnostic est tombé, insuffisance cardiaque. Les médecins lui ont prescrit 3 ou 4 pilules différentes qu'il doit prendre à chaque repas. Ils lui ont aussi conseillé d'éviter le soleil, de marcher chaque jour mais sans aller jusqu'à l'essoufflement. Joanne veille à surélever ses oreillers chaque soir quand il va se coucher. Les médecins ont dit que cela facilitait la respiration.
« Tu as besoin d'aide ?»
demande Léon tandis qu'elle regagne la cuisine.
« Non, ça va. »
Elle récupère dans le réfrigérateur le breuvage que son père a fait infuser toute la nuit. Menthe fraîche du potager avec une pointe de miel. Puis elle le rejoint assis dans la fraîcheur du salon.
« Et voici. »
Il a encore l'air tendu quand il avale goulûment l'infusion. Ils sont surpris tous les deux par la sonnerie du téléphone dans l'entrée.
« J'y vais !»
indique Joanne. Elle est étonnée de la voix qui résonne dans le téléphone. Une voix féminine et hautaine, légèrement cassante.
« Bonjour, ici Madame André. Pourrais-je parler à mon fils, s'il vous plaît ?»
Johan reste quelques secondes sans voix. Cela fait 7 mois que Léon a emménagé ici et qu'il n'a plus aucun contact avec ses parents.
« Allô ?»
fait Madame André avec impatience.
« Oui, je vais vous le chercher. »«
J'attends. »
Johan a l'impression de se déplacer avec un poids très lourd dans la poitrine. Que se passe-t-il? Elle espère que cet appel n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Léon est penché au-dessus du carrelage, il éponge son front en soufflant lorsqu'elle entre dans la véranda. Elle lui désigne le combiné qu'elle tient dans sa main et murmure.
« Ta mère ?»
Il semble aussi surpris qu'elle. Elle lui laisse le combiné et file en silence. Il rejoint Johan et Joseph au salon quelques instants plus tard. Ils sont tous les deux assis devant leur verre d'infusion glacée et ils le dévisagent avec inquiétude.
« Tout va bien? Rien de grave ?»
Léon semble perplexe et encore un peu secoué.
« Non, rien de grave. Je crois qu'ils veulent juste renouer le contact. »
Johan lui sourit avec soulagement et attrape une de ses mains dans les siennes.
« C'est une bonne chose, non ?»
Il acquiesce sans se débarrasser de sa mine tourmentée.
« Il m'invite à dîner demain soir. »
Joseph demande l'air de rien.
« Seul ?»
Ce qui provoque une certaine agitation sur le visage de Léon.
« Oui, » dit-il gêné.
« C'est bien, » déclare Johan. « C'est une bonne chose. »
Il émet un faible sourire.
« Oui, » dit-il enfin. « Je crois. »
Le soir, dans le lit, Johan vient se coller contre lui. Elle le sent encore perturbé. Elle murmure à son oreille.
« Tu sais, tu pourrais leur proposer de venir dîner à la maison un soir. »
Il se tourne brutalement vers elle, stupéfait.
« T'es sérieuse ?»«
Il serait temps d'enterrer la hache de guerre, non ?»
La surprise est trop forte pour que Léon puisse parler.
« Si papa et moi ne faisons pas un pas vers eux, ils ne le feront jamais, non ?»
Elle sent les bras de Léon qui l'en serre et sa bouche qui vient se coller tout contre son oreille. Il murmure.
« Je t'aime, tu sais. »«
Oui. » »«
Je leur dirai, promis. »
Ils font l'amour ce soir-là avec encore plus de passion que d'ordinaire. Ils ne se doutent pas que Léon rentrera déconfit le lundi soir, annonçant d'une voix presque inaudible
« Ils ont rejeté l'invitation. »
Il ne se doute pas non plus qu'il continuera d'aller dîner chez ses parents chaque semaine, malgré le refus, laissant Johan de plus en plus amer dans la maisonnette familiale.
« On a terminé la charpente la semaine dernière, » indique Albin à Johan, alors qu'ils arrivent sur le chantier, de la neige jusqu'aux genoux. « Maintenant, on attaque le percement des ouvertures. Ça te parle ?»
Albin est bavard, visiblement. Alors qu'Émile et Vance se mettent au travail en silence, Albin commence à raconter sa vie à Johan.
« Je suis menuisier de métier, tu sais. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai longtemps vécu dans les Pyrénées. C'est un coin que j'aime beaucoup. Puis on a dû déménager quand ma femme a été mutée. On s'est installé à Toulouse. Revenir ici, c'est comme renouer avec le passé, tu comprends ?»
Johan ne l'écoute pas vraiment. Elle se contente de tenir l'échafaudage sur lequel Albin est perché et de le maintenir en place lorsqu'il perce dans le mur à l'aide d'une disqueuse. Lorsque le bruit assourdissant de la disqueuse se tait, la voix d'Albin reprend le dessus.
Après ça, quand on aura fini de percer les ouvertures, on s'occupera des jambages. C'est ce que font Émile et Vance là-bas.
La pause déjeuner arrive plus vite qu'elle ne s'y attendait. L'après-midi, Émile la sauve en l'emmenant pour finaliser les jambages dont il s'est occupé ce matin. C'est Vance qui supporte les jacasseries d'Albin, et Johan n'en est pas mécontente.
« Alors, cette première journée ?»
interroge Émile alors qu'elle sort d'une douche brûlante en fin d'après-midi.
« Ça fait du bien de se remettre en mouvement. »
Il lui sourit.
« Je crois pas te l'avoir dit. C'était le dernier jour de Vance aujourd'hui. Il repart en Allemagne pour préparer la Saint-Nicolas dans sa famille. Ils ont une espèce de tradition ici au domaine. Chaque fois qu'un volontaire repart, ils font un petit dîner de fête avec Hippolyte. C'est ce soir. »
Elle acquiesce.
« Si t'es trop fatiguée, bien sûr. »
« Non, ça va. Je viendrai. » Ah, et dernière chose. Oui? Ils aiment beaucoup jouer aux cartes et boire du vin. J'ai bien peur que ça dure un peu.
Il a un air désolé, mais elle sourit à nouveau.
D'accord, ça peut être agréable.
La température avoisine les 26 degrés dans la petite cuisine. La cheminée a été bourrée de bois. L'alcool qui circule a considérablement réchauffé les visages. Une épaisse buée s'est déposée sur les fenêtres. Hippolyte s'est fait livrer de la charcuterie, des fromages locaux, du pain frais et de nombreuses bouteilles de vin rouge.
« Les supermarchés, j'aime pas ça !»
confie Hippolyte à Johan.
« On a ici ce qu'on appelle la tute-tute. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Une camionnette qui nous livre les produits frais de la région. Je me fournis qu'à la tute-tute. Tiens, goûte donc celui-là. C'est un vin du Béarn, un cabernet. »
Il ne lui laisse pas le choix, il remplit son verre d'office. Il est difficile de ne pas se laisser aller à la légèreté et à la chaleur du moment. Les joues sont rouges, les voix de plus en plus fortes. Vance fait rire tout le monde en essayant de prononcer « champagne » avec son accent allemand. Et puis Hippolyte leur raconte l'histoire d'As et tous sont scotchés à ses lèvres. Il leur apprend qu'As est nommé le pays des siffleurs, car les habitants ont une particularité. Dans le temps, avant les nouveaux moyens de communication, ils avaient l'habitude de communiquer en sifflant d'un flanc de la vallée à un autre.
Vous comprenez, la vallée forme une espèce de guide d'onde. On pouvait donc siffler pour communiquer entre les pâturages et le village.
Vraiment ?
Demande Albin, sceptique.
Les bergers arrivaient à se faire comprendre jusqu'à une distance de 2,5 km. Ils avaient développé tout un langage, un langage sifflé assez complexe qui se transmettait de génération en génération.
Tout le monde est ébahi autour de la table.
Ce langage a disparu avec l'arrivée des technologies de la communication.
Vance se demande avec son accent haché.
Vous le parlez ?
Bien sûr ! Mon grand-père me l'a enseigné quand j'étais qu'un marmot.
C'est ainsi qu'ils se retrouvent, tous passablement ivres autour de la table, deux doigts placés sous la langue à essayer de siffler. Les vers passants, ils reproduisent de moins en moins fidèlement les notes sifflées par Hippolyte à chaque tentative, mais le vieux berger ne désespère pas.
« Il faut maîtriser l'occitan pour pouvoir apprendre le langage sifflé »
indique-t-il. Il tente de leur faire répéter à voix haute « Appéral ou médecin », qui signifie « appelle le médecin ». Puis il le siffle entre ses doigts. La cacophonie qui suit se transforme en fou rire général et Vance déclare entre deux hoquets «
Et on dit que la langue allemande est complexe. Mon aïe, oui. »